Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La France devrait développer une politique fiscale soigneusement conçue pour taxer les combustibles fossiles et subventionner les solutions à faible émission de gaz à effet de serre. C'est l'appel lancé par l'ONU alors que le monde s'éloigne toujours plus de ses objectifs de maîtrise du réchauffement climatique.
Un appel qui résonne particulièrement en pleine fronde des Gilets jaunes alors que l'exécutif s'est évertué hier à justifier ses choix énergétiques et ses accompagnements sociaux.
Les arguments déployés par Emmanuel Macron ou le ministre François de Rugy n'ont pas convaincu les écologistes ni les gilets jaunes. Nouvel appel à manifester samedi sur les Champs-Élysées à Paris. À la une à l'étranger, la Syrie et un nouveau round de négociations aujourd'hui et demain au Kazakhstan, sans les Occidentaux, mais sous l'égide de la Russie, de l'Iran et de la Turquie. En jeu notamment le maintien de la trêve dans la province d'Idlib, dernier bastion aux mains des rebelles. 3 millions de civils manquent d'aide humanitaire à cause des combats.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour des nouvelles de Mars. Mission Insight, qu'est-ce qui a rendu la planète Mars inhabitable? On posera la question à un scientifique géophysicien, Philippe Lognon.
Entre les ambitions de l'accord de Paris et la réalité climatique, l'écart n'a jamais été aussi grand. C'est la conclusion alarmante de l'ONU hier, à 5 jours d'une nouvelle conférence mondiale pour le climat, la COP24, qui s'ouvre dimanche en Pologne. Un rapport de l'ONU note que l'an dernier, les gaz à effet de serre sont repartis à la hausse après 3 ans de relative stabilité. Les États signataires de l'accord de Paris de 2015 regardent encore ailleurs et pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle, il faudrait désormais tripler les engagements promis à la COP21, les multiplier par 5 même ces efforts si l'on ne veut pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, les précisions d'Anne-Laure Barral.
C'est un peu comme courir après un bus. Certes, nous courons plus vite, mais le bus accélère et du coup l'écart se creuse. C'est ce que montre ce 9e rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement publié hier. Nous avons fait des efforts, mais pas suffisamment et le moteur climatique est en train de s'emballer. Les émissions mondiales repartent à la hausse, plus 3% en 2017 et cela devrait être du même ordre en 2018, estime le rapport, principalement à cause du secteur de l'énergie et de la déforestation. La plupart des pays du G20 ne remplissent pas leurs engagements pris à la COP21, les États-Unis, l'Australie et même la France. Pourtant, le rapport salue un certain nombre d'efforts, comme celui de collectivités locales qui investissent dans les transports en commun. Mais il insiste sur l'importance d'agir au niveau national, avec une politique fiscale soigneusement conçue pour taxer les combustibles fossiles, mais aussi subventionner les solutions à faible émission. Un double message sans doute adressé à la France, à la fois aux mécontents des prix des carburants et au gouvernement.
Et hier, Emmanuel Macron a fait un geste en direction des Gilets jaunes. Lors de son discours à l'Élysée, le chef de l'État a parlé d'un rendez-vous trimestriel pour tenter d'atténuer l'effet des cours mondiaux du pétrole avec un outil politique qualifié d'anti-pic pour suspendre la hausse des taxes. En cas de flambée des cours, cet outil doit être prêt mi-décembre pour l'examen en deuxième lecture du projet de loi de finances à l'Assemblée. L'Élysée se défend de vouloir remettre au goût du jour la TIPP flottante, le système mis en place par le gouvernement Jospin entre 2000 et 2002. Il était censé être automatique. L'Élysée précise que cette fois-ci, c'est l'exécutif lui-même qui décidera d'appuyer sur le bouton, de réduire, voire suspendre les taxes sur les carburants en cas de flambée des cours du brut. Mesure insuffisante pour des porte-paroles des Gilets jaunes reçus hier soir par le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Des Gilets jaunes qui continuent leur mobilisation. On y revient dans le journal de 7h30. Côté nucléaire, à présent, les annonces d'Emmanuel Macron hier sur la programmation pluriannuelle de l'énergie n'ont pas enthousiasmé les ONG de défense de l'environnement. En dehors de Fessenheim, en 2020, aucun réacteur ne va fermer sous le quinquennat Macron. Ensuite, 14 réacteurs nucléaires fermeront d'ici 2035 sur les 58 existants. La réponse n'est pas à la hauteur de l'urgence, dénonce Greenpeace. Si Emmanuel Macron défend, lui, une approche pragmatique, pour Yves Marignac, directeur de Wise Paris, une agence indépendante et critique sur le nucléaire, cet arbitrage de l'exécutif n'est pas du tout pragmatique sur le long terme.
Il y a une illusion de pragmatisme ou de prudence dans une approche qui consisterait à dire que fermer beaucoup de réacteurs d'un coup serait compliqué, difficile, déstabiliserait le système et puis évidemment poserait des problèmes socio-économiques dans les territoires concernés. En réalité, quand on regarde, ce qui est proposé, c'est de fermer en 17 ans 14 réacteurs, c'est-à-dire un quart du parc de 58 réacteurs. Quand on sait que ce parc, se tient en termes d'âge en une vingtaine d'années, et même pour 80% des réacteurs en une dizaine d'années, c'est un rythme qui en fait n'est pas du tout raisonnable. Ce que produit la trajectoire proposée aujourd'hui par le gouvernement, c'est une situation en 2035 où on a encore 44 réacteurs qui fonctionnent et où ces 44 réacteurs atteignent 50 ans de fonctionnement, ce qu'aucun réacteur à ce jour n'a atteint dans le monde. Donc on entre dans des zones extrêmement incertaines du point de vue du comportement, de la sûreté, des coûts de ces réacteurs. Parier dès aujourd'hui sur le fait que tous les réacteurs vont pouvoir non seulement atteindre 50 ans, mais aller au-delà, puisqu'il ne s'agira pas de tout fermer en 2035, c'est extrêmement hasardeux. Vu d'aujourd'hui, ça paraît raisonnable. Vu de 2035, ça nous promet une situation potentiellement ingérable.
Yves Marignac, directeur de l'agence Wyse Paris, interrogé par Théo Hetsch. Et comment faire comprendre sur le terrain les choix énergétiques de l'exécutif? C'est la lourde tâche auxquelles vont s'atteler désormais les députés de la majorité, Anne Fauquemberg.
Un groupe qui a été marqué par l'agression de la députée de l'Aude, Mireille Robert, députée dont la propriété privée a été envahie par plusieurs dizaines de gilets jaunes en pleine nuit, vendredi dernier. Elle a repris sa place dans l'hémicycle hier, volontaire, pour accompagner les mesures annoncées par le chef de l'État.
Je fais, comme de nombreux élus, quotidiennement, l'objet de torrents d'injures et de menaces. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'écouter cette colère qui gronde. Nous devons y répondre.
Et ces mesures, justement, suffiront-elles à faire descendre la colère? Les députés LREM font preuve de pédagogie au sujet de ce mécanisme de révision de la fiscalité sur les carburants qui a des airs anciens de TIPP flottante. Le député de l'étranger, Roland Lescure, préfère parler d'escalier roulant.
L'escalier, c'est la hausse de la fiscalité écologique avec un point d'arrivée très clair et un rythme très clair. Et on adapte la vitesse de l'escalier roulant, mais qui va continuer à monter, à l'évolution du cours du pétrole.
Quant à cette grande concertation par territoire sur la transition écologique, concertation à laquelle les gilets jaunes sont invités, le Premier ministre doit définir les modalités, mais les députés sont prêts à se retrousser les manches. Jean-Baptiste Djebari est élu en Haute-Vienne.
Moi j'ai reçu une délégation de gilets jaunes, j'ai bien noté quand même qu'une des choses qu'on doit casser, c'est l'arrogance qui est perçue du pouvoir politique, et je nous inclus dedans. Et c'est pas normal dans une réunion de 2h30 d'avoir à casser ça pendant 40 minutes pour après avoir des discussions qui sont des discussions de fond.
Le chef de file des députés LREM, Gilles Legendre, voulant voir dans cette crise l'esquisse d'une nouvelle manière de gouverner, une nouvelle gouvernance accueillie avec méfiance à ce stade par les syndicats.
Les syndicats qui appellent par ailleurs les salariés de l'île de la Réunion à exprimer toutes leurs revendications, alors que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, va aujourd'hui à la rencontre des gilets jaunes sur l'île. La Réunion paralysée par des blocages depuis une dizaine de jours, la Réunion où 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. De nouveau pour parler sur la Syrie, réunissent aujourd'hui et demain à Astana, au Kazakhstan, des émissaires de l'Iran, de la Russie et de la Turquie.
Pour discuter notamment de la situation à Idlib, cette province du nord-ouest de la Syrie, où 3 millions de civils, des personnes déjà déplacées par les combats, sont prises en étau entre des groupes rebelles et djihadistes et les forces loyales au régime de Bachar al-Assad, avec la frontière fermée de la Turquie. C'est une prison à ciel ouvert que dénoncent des médecins syriens de passage à Paris, des médecins de retour d'Idlib que Marwaman a pu rencontrer.
C'est une région au bord de la catastrophe humanitaire que décrit Mohamed Abrache, directeur de l'hôpital central d'Idlib.
C'est vraiment une prison, vous savez. Nous avons de très nombreux patients en attente de transfert vers la Turquie qui sont en train de mourir. Si la situation se détériore, les gens tenteront de briser ce mur pour rejoindre la Turquie puis l'Europe.
Car la situation pourrait se dégrader dans les prochaines semaines. Les États-Unis menacent de retirer leur financement aux ONG présentes dans ce territoire contrôlé en partie par les djihadistes de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Amjad Ras de la Syrian American Medical Society qui intervient dans la moitié des structures médicales de cette zone.
C'est à cause des mesures antiterroristes. Nos plus gros donateurs sont les États-Unis. C'est plus de la moitié de nos financements. Et ils nous ont dit, vous devez vous retirer. Si nous nous retirons, les conséquences seront majeures.
Une tragédie, notamment pour les enfants. La pédiatre Nour Al-Nirabia.
Le problème le plus grave, c'est la malnutrition due à la très grande pauvreté qui pousse les enfants à travailler. Ils refusent d'aller à l'école. Ils ont entre 10, 12 ans, ils font des travaux agricoles pour gagner un peu d'argent. Ces enfants n'ont connu que la guerre.
Une guerre sans fin, mais pas sans séquelles psychologiques pour ces milliers d'enfants syriens.
À propos de la Syrie encore, Washington demande à Moscou d'autoriser une enquête indépendante sur le site de l'attaque chimique présumée de samedi dernier dans la ville syrienne d'Alep, sous contrôle du régime syrien. Une attaque imputée à des groupes terroristes par Damas et Moscou. Aux États-Unis, l'épilogue des élections de mi-mandat avec hier soir le second tour de l'élection sénatoriale dans le Mississippi, remporté par la sénatrice sortante républicaine, soutenue lundi soir encore par Donald Trump. De quoi renforcer la majorité républicaine au Sénat, 53 sièges contre 47 pour les démocrates. L'opposition, elle, est largement majoritaire à la Chambre des représentants. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui que débute le processus pour désigner le futur speaker, le président ou la présidente de la Chambre. Et sauf surprise, le poste devrait revenir à Nancy Pelosi, qui avait déjà occupé cette fonction sous Barack Obama. Grégory Phillips.
La première femme speaker in our history, the gentle lady from California.
Le 3 janvier 2007, à 66 ans, Nancy Pelosi devient la première femme et la seule pour l'instant à présider la Chambre des représentants. Elle restera à ce poste pendant 4 années et compliquera grandement la fin du mandat de George W. Bush. Depuis 2011, la représentante de Californie dirigeait la minorité démocrate au sein de cette assemblée et on l'a vu batailler fermement contre les projets de l'administration Trump. Le 7 février dernier, elle prononce le discours le plus long de l'histoire du Congrès américain, plus de 8 heures pour défendre les Dreamers, ces jeunes migrants arrivés illégalement aux États-Unis avec leurs parents. Nancy Pelosi veut donc redevenir le troisième personnage de l'État, juste après le président et le vice-président, mais elle n'est pas certaine d'être soutenue par l'ensemble des représentants démocrates. Plusieurs dans son propre camp appellent au renouvellement. L'élu de San Francisco a 78 ans, mais si elle n'est pas désignée aujourd'hui, eh bien elle aura jusqu'au 3 janvier, date de la rentrée parlementaire, pour convaincre ses collègues de la nommer au perchoir, avec le fameux marteau à la main, et la responsabilité d'être la première opposante à Donald Trump.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Maintenant que la poussière soulevée par mon atterrissage sur Mars est retombée, je prends un peu de temps pour moi pour voir si tout va bien avant de me mettre au travail. C'est l'un des derniers messages envoyés sur Twitter par InSight, la sonde de la NASA, arrivée avant-hier donc sur la planète rouge. Qu'est-ce qui a rendu Mars inhabitable? C'est la question à laquelle va tenter de répondre InSight et c'est la question du jour que vous poserez, Guillaume Erner, à un géophysicien juste après ce journal. Absolument. Le temps de ce mercredi 28 novembre, maussade sur la moitié nord du pays, plus ensoleillé au sud. Les températures sont comprises ce matin entre 3 et 8 degrés en général, un peu plus frais, 0 à 3 degrés localement dans le sud-ouest et le nord-est.